7h. Le journal de 7h. Didier Blé.
Merci de nous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à tous. À l'approche de la présidentielle de 2025 et des prochaines législatives en Côte d'Ivoire, l'Alternative citoyenne ivoirienne entend instruire les populations ivoiriennes sur les valeurs démocratiques. Vous entendrez dans cette édition sa présidente. Après l'inauguration de la centrale solaire de Boundiali, le ministre ivoirien de l'énergie annonce la construction d'autres centrales dans les villes de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Actualité africaine au Togo, l'opposition en colère après le nouveau report des élections législatives et régionales. Dans cette édition, vous aurez la revue des titres, un exercice qui vous sera présenté par Mel Emmanuel et puis dans l'invité de la rédaction ce vendredi. Le pays de la Teranga nous intéresse. Ndiaga Sila, l'expert électoral sénégalais, sera en compagnie de Constant Maillet. Au centre des échanges, l'élection de Bassirou Faye à la présidence du Sénégal et la nomination de Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, et c'est en fin de journal. Merci de nous retrouver. Excellente matinée à tous et à toutes. Promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire, l'Alternative citoyenne ivoirienne envisage une campagne de sensibilisation des populations en vue des prochaines élections en 2025. Sa présidente Pulchérie Balé nous explique les raisons de cette initiative.
Les enjeux de 2025 sont très importants, alors que nous avons remarqué que malheureusement, les populations sont très corruptibles et elles prêtent le flanc à tous ceux qui essaient d'acheter leur conscience. Donc nous avons décidé d'aller dans la Côte d'Ivoire profonde, rencontrer tous les Ivoiriens pour leur enseigner les critères sur la base desquels on devrait voter en principe, et aussi les valeurs démocratiques, afin que en 2025, les votes soient plus responsables, malgré les cadeaux. La deuxième chose, c'est que notre organisation a décidé d'avoir des députés aux prochaines législatives, parce qu'on n'a qu'un seul député qui joue le rôle de député en Côte d'Ivoire, il s'appelle Assalé Thiémoko, et ce n'est pas normal. Donc, nous, en tant que société civile, nous estimons que la prochaine législature doit avoir des députés issus de la société civile pour rendre l'Assemblée nationale beaucoup plus dynamique.
Oui, mais pour dire qu'il n'y a qu'un seul député en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui, selon vous, vous donne donc la possibilité de le dire?
Non, mais ce sont les faits, c'est pas compliqué. On a 245 députés. Il n'y a qu'un seul qui communique avec le peuple. Il n'y a qu'un seul qui nous rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et nous consulter. Et ce n'est pas le cas. Du coup, ce sont les faits qui nous font dire ça. Même les députés de l'opposition ne sont pas capables de jouer ce rôle. Il y a un problème.
La présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne, Pulchérie Balé, était en ligne avec Junior Cardin. La sous-préfecture de Yamoussoukro a organisé le mercredi 3 avril dans ses locaux la première session du conseil de sous-préfecture. Cette rencontre qui a réuni les élus locaux, des responsables d'organisations de jeunes et de femmes ainsi que des chefs de village de la circonscription s'est achevée par l'adoption d'un plan de développement. Emiliao.
Cadre de planification des actions de développement sur l'ensemble du territoire de la sous-préfecture, ce premier conseil a adopté un plan d'action visant à favoriser l'union et la cohésion au sein des populations, précise Yeodo Nyiminina, sous-préfet de Yamoussoukro.
Les grandes lignes dans ce plan d'action sont de renforcer la cohésion sociale dans nos villages, lutter contre les conflits élevés agriculteurs, et il y a aussi la préservation du couvert forestier à Yamoussoukro. L'un des grands points vraiment de ce plan d'action, c'est de pouvoir vraiment arriver à tenir des bonnes statistiques pour pouvoir donc permettre aux décideurs de prendre les bonnes décision de programmer de bonnes actions de développement dans le village.
Autre volet important de ce plan d'action, la formation des chefs de village de la circonscription. Yo Do Nyiminina.
Quand on parle donc de paix sociale, de cohésion dans nos villages, les questions que les chefs de village soient formés à la gestion des villages. Donc, nous voulons créer vraiment un cadre pour former nos chefs de village sur l'organisation et le fonctionnement donc des villages, donc à réduire donc les litiges et les différends avec les autres membres donc de la société.
Une annonce saluée par Nana Kwasi Konan, chef du village de Kami.
Il faut reconnaître que la gestion de nos villages se faisait de manière utopique. Avec nos ancêtres. Aujourd'hui, la vie moderne et le monde moderne nous imposent une autre façon de gérer les villages. Nous sommes l'administration à la base et on a besoin de la formation, même si individuellement on apprend, mais il y a des tests qui existent pour la gestion de nos cités. Et donc, comme formation, ce serait la bienvenue.
Tombé en léthargie, les conseils de sous-préfecture, organes de gestion et de développement local ont été redynamisés depuis 2022-2023 par le gouvernement ivoirien. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Désormais, les populations, les commerçants ambulants, les mendiants et les charretiers, ou au trop en jargon ivoirien, n'ont plus leur place aux abords des grandes voies, dans les rues, carrefours et autres lieux publics d'Abidjan. Le district autonome a produit à cet effet un communiqué qui nous explique ici son deuxième vice-gouverneur, Ncho Kwao Vincent. Il est joint par Francis Cassie.
Dans la même ligne de la lutte contre le désordre urbain et l'assainissement, nous débarrassons Abidjan de certaines pratiques qui ont cours, c'est-à-dire la vente sur les grandes artères, ce phénomène nouveau de la mendicité et surtout l'utilisation des charrettes appelées communément auto qui empêchent la fluidité routière. Aujourd'hui, nous pensons que pour l'image d'Abidjan, il est quand même inadmissible de voir ces pratiques-là. Nous l'avons pratiqué depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, nous devons changer de cap. Nous voulons assainir Abidjan. Aujourd'hui, le président de la République a mis les moyens, a mis les infrastructures qui font que Abidjan est une destination prisée. Nous devons ensemble soutenir cette action par un comportement citoyen. Dorénavant, les vendeurs ambulants, la mendicité sur toutes ses formes, les charrettes à bras, appelées communément auto, nous disons que nous ne pouvons plus continuer d'avoir ces engins-là dans les rues du district d'Abidjan.
C'est à l'instant Ncho Kwao Vincent, deuxième vice au président du district autonome d'Abidjan. Et puis au nord de la Côte d'Ivoire, à Boundiali, la toute première centrale solaire vient d'être inaugurée par le Premier ministre Beugré Mambé. C'était le mercredi 3 avril dans la cité de l'Hippopotame. Le projet est réalisé par, avec l'appui technique et financier du gouvernement allemand à travers la KfW et l'Union européenne. Retrouvons une correspondance particulière de notre confrère Tommy Corona.
À entendre le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, ce projet coule de source et pour cause, Sidi Benoumouri.
La Côte d'Ivoire a très tôt, au début des années 90, réalisé l'importance du développement durable et a choisi de s'engager avec la communauté internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce choix a fortement influencé sa politique énergétique.
Fruit de l'excellente coopération ivoiro-allemande, la centrale solaire fait la fierté de toutes les parties prenantes. Dr Barbel Kofler, secrétaire d'État parlementaire auprès de la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement.
Cette centrale n'est pas seulement un chalon pour la transition énergétique de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une phare de la coopération ivoire-allemande.
Le gouvernement ivoirien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mamadou Sangafa Koulibaly.
Celle de Ferke en 2025, celle de Bondougou en 2025, Korogo en 2026, Mbengue en 2026, Katiola en 2026, Tengrela en 2026, Kong en 2026, Serebou en 2026, Touba, Loboa en 2026, Odjene en 2026, Mankodo en 2026, Soubré en 2026.
D'où cette exhortation du Premier ministre Beugré Mambé aux populations.
Le président nous a demandé de tout faire pour que dans le domaine de l'électricité, la Côte d'Ivoire soit le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour porter tout cela en prière.
Une initiative saluée par les cadres et les populations de la Bagoué. Tommy Corona, de retour de Boundiali pour Radio de la Paix.
Parlons d'assurance couverture maladie universelle dans cette édition. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a rencontré les préfets, rois et chefs traditionnels ce jeudi à Abidjan pour une séance de mobilisation et de sensibilisation. Pour Pierre Demba, leur appui permettra une prise en charge accrue des populations et surtout des malades du VIH par cette assurance. Le compte-rendu de Christelle Guissot.
La couverture maladie universelle était au cœur des échanges. Le ministre Pierre Demba est revenu sur la mise en service de cette assurance santé.
C'est aujourd'hui plus de 11 millions de personnes qui sont enrôlées à la couverture maladie universelle. Et aujourd'hui, plus de 450 000 personnes ont pu bénéficier des soins avec plus de 964 médicaments qui ont été donc utilisés et 170 pathologies qui ont été traitées dans le cadre de la couverture maladie universelle.
Face aux plaintes communautaires à propos de la CMU, le ministre de la Santé répond.
Moi j'entends quelquefois les gens disent oui, mais moi je paye la CMU, mais ça ne me sert pas à grand chose. Non ? Dans tous les pays du monde, la CMU est l'assurance de base. Et d'ailleurs, on est en train de voir comment l'étendre dans le secteur privé. Il faut que chacun de nous ait sa carte d'assurance CMU. C'est vraiment ce qui vous permet, même quand vous n'avez pas d'argent, si vous êtes malade, donc de vous prendre en charge en attendant qu'on trouve comment payer la prestation.
Il a aussi été question de la lutte contre le VIH. Le ministère de la Santé demande l'appui des préfets, rois et chefs traditionnels. Professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé et de l'hygiène publique.
Le ministère souhaite que les rois et chefs traditionnels encouragent les femmes enceintes à aller dans nos hôpitaux pour les accouchements. Lors des consultations prénatales, on pourra éventuellement dépister le VIH afin d'empêcher la transmission de la mère à l'enfant. Mais également, on souhaite la sensibilisation auprès des jeunes adolescents pour qu'ils puissent aussi avoir les attitudes et les pratiques relatives au VIH.
Les autorités coutumières ont exprimé leur adhésion à la lutte contre le VIH.
Merci à vous Christelle. Le syndicat national des distributeurs de gaz, Syndigaz, par la voix de son porte-parole, Kwame Marcel Bezem, a animé une conférence de presse mercredi 3 avril dans la commune d'Abobo. L'objectif, de donner la position de la fêtière des distributeurs de gaz sur la récente explosion du dépôt de gaz à Bonouma dans la commune de Cocody. Les détails de cette conférence avec Jean-Mélène Bitti.
Sur les nombreuses explosions de dépôts de gaz observées à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, Kwame Bezem accuse.
Les bouteilles qui sont sur le marché sont de bonne qualité. Mais s'il y a aujourd'hui ces cas d'explosion, ce n'est pas du fait du marketeur ni du distributeur. C'est aujourd'hui ces réseaux clandestins qui existent dans nos quartiers et qui sont toujours dans nos ménages. Il y a aujourd'hui le cas des transvasements. Et la majorité des entreprises ou des dépôts qui explosent en Côte d'Ivoire sont du fait du transvasement.
Aux populations, le porte-parole du syndicat national des distributeurs de gaz demande ceci.
Nous interpellons la population à être très vigilante et aussi à signaler ce genre de cas. Lorsque vous remarquez que dans votre quartier, il y a une odeur de gaz quelque part, informez automatiquement le commissariat le plus proche afin qu'il vienne intervenir et saisir ces personnes.
Pour éradiquer ce réseau de clandestins dans ce secteur, Kwame Bezem interpelle ici le chef de l'État.
Nous voulons demander encore au président de la République qu'il saisisse l'armée afin qu'une brigade soit créée pour intervenir dans ce domaine, pour que ce réseau-là soit véritablement éradiqué. On nous accuse que c'est nous qui donnons les mauvaises bouteilles à la population. Nous disons non, nous ne sommes pas les acteurs de cette souffrance que le peuple ivoirien subit.
Chaque année, c'est environ 1500 personnes qui sont admises au centre des grands brûlés du fait des explosions du gaz, a fait remarquer Rose de Souza, présidente de l'association des grands brûlés, lors de cette conférence de presse.
République africaine au Togo, les opposants politiques et la société civile aussi, entre surprise et colère. Les réactions étaient vives ce 4 avril 2024, au lendemain du report des élections législatives et régionales qui étaient prévues le 20 avril. Une annonce de la présidence tombée à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. Il s'agit donc d'un léger réaménagement du calendrier électoral selon la présidence. Le temps que l'Assemblée nationale mène des consultations autour de la nouvelle Constitution. Ce texte voté par les députés il y a une dizaine de jours, alors que leur mandat expiré fin décembre, est rejeté par l'opposition. Et puis, sans transition, nous retrouvons pour la revue des titres Mel Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Les échanges entre l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, et le président de la République, Alassane Ouattara, intéressent l'essentiel de nos journaux parus ce jour. Déjà, sur la question de savoir s'il y a vraiment eu échange entre les deux personnalités ou pas, la confirmation fait la une de l'Inter qui écrit « Situation politique, décrispation, Soro confirme son coup de fil à Ouattara ». Lequel coup de fil traduirait une volonté pour Soro Guillaume de se mettre à la disposition du chef de l'État Alassane Ouattara, à en croire le quotidien Notre Voix qui titre « Après 5 ans de guerre infructueuse, Soro prêt à écouter les conseils de Ouattara ». Quant au confrère L'Avenir, l'interrogation est au niveau des motivations de cet appel téléphonique de l'ex-président de l'Assemblée nationale au président de la République. Après son coup de fil au président de la République, Guillaume Soro entre repentance, duplicité et mauvaise foi. Autre sujet qui intéresse la presse ivoirienne aujourd'hui, c'est la visite officielle du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire. En terre ivoirienne depuis maintenant 72 heures, il a effectué une visite de terrain dans le cadre des investissements ivoiriens en Côte d'Ivoire, fait savoir Fraternité Matin. Une visite soldée d'une part par la satisfaction du président italien dans le domaine de l'éducation, selon Notre Voix, qui note « Mattarella salue les initiatives de la Fondation AFSI dans le secteur éducatif » et d'autre part par son élévation à la dignité de Grand Croix, selon L'Avenir. Parlons toujours de visite officielle et d'audience. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Tidjane Thiam, a reçu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, informe le Bélier. L'héritage, lui, fait savoir que cet échange entre les deux personnalités en tête-à-tête au siège du PDCI a duré plus d'une heure. Enfin, la modernisation de l'administration ivoirienne, nos journaux en parlent. Elle découle d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et la France et à cet effet, un important accord a été signé entre les deux pays, informe l'Avenir. Information reprise par le sursaut qui met en avant coopération France-Côte d'Ivoire, comment Anouloto veut transformer la fonction publique. Voilà parmi tant d'autres les titres qui parfument l'actualité dans la presse ivoirienne ce jour. Merci et bonne lecture à toutes et à tous.
Merci Chemel Emmanuel pour cette revue des titres. On vous rapidement vous retrouvera dans le prochain journal. Sans transition, l'invité de la rédaction, notre invité ce matin, Ndiaga Sila, expert électoral sénégalais. Avec lui, nous parlons de l'élection du plus jeune président du Sénégal, Diomaye Faye, 44 ans, et de la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. L'expert électoral sénégalais, Ndiaga Diarra, Ndiaga Sila, autant pour moi, répond aux questions de Constant Maïlé.
Bonjour, monsieur Ndiaga Sila.
Bonjour.
Vous êtes expert électoral. On va parler de l'investiture du nouveau président sénégalais, élu à 44 ans au Sénégal. Quel commentaire cela vous inspire?
Nous avons tous été fiers d'assister à la cérémonie d'investiture du plus jeune président de la République de l'histoire du Sénégal, qui a été élu avec la manière pour dire que, justement, il a été plébiscité. Et la jeunesse, effectivement, s'est mobilisée et a pu, effectivement, donc croire au projet, à la vision qui leur a été vendue depuis pratiquement 3 années.
Est-ce que cela ne ressemble pas à un vote sanction pour l'ancien président Macky Sall?
Le vote a été utile. Certains même le qualifient de référendum parce qu'effectivement, tous les analystes ou la plupart en fait, d'entre eux prévoyaient en fait, donc, un second tour au regard justement des forces en présence parce que nous avons connu des candidats ou des partis qui ont été assez représentatifs et qui pouvaient effectivement influer sur l'issue du scrutin pour nous mener au second tour. Mais aujourd'hui, je pense que les situations que nous avons vécues depuis les événements de mars 2021, les violences, les arrestations, ont fini effectivement par insuffler un ras-le-bol en fait, donc, des électeurs sénégalais. Et surtout, je pense que ce qui a été l'élément perturbateur, c'est l'interruption du processus électoral à la veille justement de la date initiale de l'ouverture de la campagne électorale. Au point que les citoyens se sont dit effectivement qu'il faut aujourd'hui ne plus offrir en fait, donc, le prétexte aux tenants du pouvoir pour donc détourner les suffrages. Et je pense que cela les a poussés au-delà justement du fait qu'ils croient à la rupture donc prônée en fait donc par la coalition Diomaye président. Je pense qu'ils ont voulu de manière ferme montrer qu'ils veulent la rupture.
Quelles peuvent être les priorités de ce nouveau président à la tête du Sénégal?
Bon, je pense que sur ce point-là, nous les attendons sur la base justement des axes qu'ils ont déclinés dans le programme. Déjà en avant-première, le président nouvellement donc installé a annoncé qu'il va revenir pour insister sur l'affaire donc de la justice. Il va faire en sorte que l'indépendance de la justice soit assurée. Il va faire en sorte que le Sénégal reste un État démocratique et aussi il a insisté effectivement sur la nécessité effectivement de réduire les fractures sociales. Donc on peut espérer que d'ici quelques jours, que des mesures justement d'allègement en fait donc du panier de la ménagère puissent donc prendre effet. Évidemment, il va falloir pour faire une refondation envisager en fait donc des réformes institutionnelles. Nous ne savons pas encore quelles seront justement les stratégies ou les voies. En tout cas, j'estime que pour faire les réformes donc approfondies annoncées, il va falloir peut-être envisager l'organisation d'un référendum.
Dans la foulée, le nouveau président Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko, son alter ego politique. Il a nommé Premier ministre du Sénégal. Alors, on imagine un tandem. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tandem?
Alors, il y a quelques jours, j'ai publié un texte pour dire effectivement qu'il s'agit d'un duo d'espérance. D'un duo d'espérance sur un marque d'espoir pour permettre effectivement, au-delà de certains qualifiés peut-être comme étant justement ou pouvant inspirer éventuellement un dualisme au sein de l'État, moi je considère que vu leur histoire, vu le projet qu'ils ont partagé, qu'ils ont initié ensemble, les brimades qu'ils ont subies, vu leur amitié, moi je pense que leur duo devrait être considéré comme étant une force qui empêcherait effectivement l'exercice de l'un ou de l'autre du pouvoir solitaire. Parce que chacun effectivement veillera, c'est comme une sorte de sentinelle à ce que l'autre ne dévie pas effectivement du chemin qu'ils se sont tracé. C'est pourquoi d'ailleurs la nomination elle est à la fois légitime et logique parce que c'est les gens qui maîtrisent en fait donc leur projet pour sortir en fait donc le Sénégal d'un certain nombre de reculs qu'on a connus durant les dernières années, surtout sur le plan démocratique.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ce duo vole en éclats au fil du temps?
Au contraire, moi je pense que ce duo vit son histoire parce qu'il est composé quand même d'abord de deux amis qui ont été en fait donc ensemble au niveau des impôts et domaines. Il faut même comprendre que l'actuel président a un de ses fils qui porte le nom de Ousmane Sonko et je pense que lui-même, il est conscient du fait que c'est Ousmane Sonko qui est l'initiateur et porteur du projet. Et en un certain moment, on a fait obstacle à sa candidature. C'est pourquoi lui, il a pensé à un plan B et je pense que c'est ce plan B, par le choix porté sur le président Diomaye Faye qui a marché. Donc, tout le monde, en fait, devrait à commencer par Diomaye. Et je pense qu'il en est conscient, le président Diomaye, que effectivement Ousmane Sonko a joué un rôle décisif sur l'élaboration du projet, mais aussi sur justement la conquête du pouvoir. De ce point de vue, je pense que ce qui les lie est plus important que ce qui va, en fait, que ce qui risque de les désunir. De ce point de vue, moi, j'ai espoir qu'ils seront conscients qu'il va falloir effectivement jouer sur cette complémentarité, que l'espoir suscité par cette victoire soit donc matérialisé.
Ndiaga Sylla, vous êtes expert électoral sénégalais. Je vous remercie.
Bien, merci.
Voilà, c'était un invité de la rédaction ce matin. Ndiaga Sylla, expert électoral sénégalais, était en compagnie de Constant Maïlé, justement, tout de parler de l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du pays de la Teranga et puis également de la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Entretien qui referme ce 7 heures, le rappel des titres. À l'approche de la présidentielle de 2025 et des prochaines législatives en Côte d'Ivoire, Alternative citoyenne ivoirienne entend instruire les populations. Vous avez entendu Pulchérie Balé, sa présidente. Après l'inauguration de la centrale solaire de Boundiali, le ministre ivoirien de l'énergie annonce la construction de nouvelles centrales dans les villes de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Actualité hors de chez nous, l'opposition en colère au Togo après le nouveau report des élections législatives et régionales. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous reviendrons à 8h pour la deuxième édition de cette matinée. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, la voix de la diversité.